Allô, bonjour, c'est Paul, 17 ans, en terminale ES. Donc j'étais à la manifestation d'hier à Paris contre le projet Fillon. Et on s'est fait attaquer pendant tout le défilé par des casseurs qui rackettaient tout le monde et puis personne ne bougeait. Enfin, personnellement, j'ai essayé de défendre un jeune qui se faisait agresser par Silascar. Ils m'ont pris mon lecteur MP3, j'ai résisté et je me suis pris une droite. Et dans tout ça, personne n'a bougé, hein. Surtout pas les CRS qui nous regardaient sans bouger. Donc je me suis même vu répondre que j'avais qu'à rentrer chez moi lorsque je suis allé leur demander pourquoi ils bougeaient pas. Donc je pense que ça arrange bien le gouvernement qu'on se fasse taper dessus sans que la police ait besoin de sortir les matraques. Alors à tous les lycéens, il va falloir être un peu plus solidaires contre la violence qu'on a subie aujourd'hui. Mais que Monsieur Fillon se rassure, hein. On sera là jeudi. Salut Daniel et merci pour ton émission.
Voilà, chers auditeurs et auditrices de Là-bas si j'y suis, j'ai un petit doute quand même, Daniel, j'aimerais peut-être qu'on fasse une petite enquête sur finalement ces casseurs-là qui viennent à chaque fois boucaner les manifs de lycéens, la plupart du temps, pour montrer que la jeunesse, quand même, c'est que de la mauvaise graine et des violents. Je me demande s'ils ne sont pas un peu subventionnés par quelques services d'État. Bon, c'est une petite question que je pose, ma foi, ça mérite réflexion. Allez, continuons, et jeudi, on sera tous dans la rue, de toute façon. On va leur montrer.
Un petit message à Monsieur Fillon. Monsieur le ministre, courage, gardez le cap, et ne cédez pas sur votre réforme face à cette vague déferlante de jeunes gauchistes manipulés par des syndicats ancrés dans leurs habitudes. Maintenez votre réforme, ne démissionnez pas. Ce que veulent ces jeunes, ils ne le savent pas eux-mêmes. Partisans du moindre effort, pourquoi relever les manches et bosser un petit peu plus quand on a presque tout à 18 ans? À ceux qui pensent que je raconte n'importe quoi, je suis maman de deux jeunes. Un étudiant en deuxième année de prépa HEC qui travaille comme un malade pour préparer et réussir ses concours d'entrée en école de commerce, et d'une lycéenne de 17 ans et demi en terminale qui ne pense qu'à s'amuser, ne travaille pas en classe, qui ne se préoccupe pas du tout de son orientation après le bac, si elle l'a, ce qui n'est pas gagné. Mais qui veut gagner au minimum 1 500 euros, si jamais elle travaille, avoir son appart, sa voiture et j'en passe. Ma fille, malheureusement, reflète l'image de ces jeunes braillards qui battent le pavé au lieu d'être en cours. Alors, monsieur le ministre, tenez bon. Quand je pense que ce sont ces mêmes jeunes qui plus tard participeront au développement de notre économie, il y a quand même beaucoup de soucis à se faire. Courage, monsieur le ministre. Tenez bon.
Allô, allô, c'est Yolande. C'est un message pour les pieds nickelés, voleurs de feuilles d'impôt. Au nom de l'égalité, pourriez-vous voler la mienne? Elle est à l'abri au milieu des autres. Non, pas dans un coffre-fort, dans le bunker. Elle est dans le bureau de l'hôtel des impôts. À quoi la reconnaîtrez-vous? Salaire de prof certifié, 22 614,34 euros. Cette bande s'auto-détruira dans 5 secondes. Au revoir.
Monsieur Mermet, en l'honneur de la journée de la femme, n'avez-vous pas honte d'avoir diffusé, après l'interview d'une femme tunisienne victime du régime de son pays, des propos qui, habituellement, ne me choquent pas, mais qui réduisaient la femme au tableau de Courbet et à ses organes génitaux. Honte à vous et à votre équipe qui vous a laissé faire. Au revoir.
C'est Célia de Limoges, c'est pour laisser un message au sujet de l'émission d'aujourd'hui sur l'origine du monde. J'aurais bien aimé être là quand le monsieur, quand la dame, elle a posé des questions aux gens qui passaient dans la salle où le tableau était affiché, parce que j'aurais aimé dire que moi, ce sexe de femme, j'avais envie de poser les mains dessus pour savoir s'il était chaud ou froid, et que j'aurais aimé savoir quel âge avait la femme qui portait un tel sexe. Et je me demandais aussi jusqu'à quel âge elle avait vécu, si elle avait du plaisir avec ce sexe et si ce sexe avait déjà été humide et tout ce genre de choses. Voilà, je ne pense pas en termes d'obscénité ni de laideur. C'est d'une telle simplicité que je ne comprends pas comment on peut encore parler d'obscénité. Voilà, au revoir.
Et oui, la célébration du buisson ardent et du fruit des fendus vous a inspiré hier sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, ça a chauffé. Aujourd'hui, ben on continue la balade Gardanne, Aubagne, Marseille. Aujourd'hui, on est à Aix-en-Provence. Il fait un temps magnifique à Aix-en-Provence. Je suis dans une petite rue, là, superbe, qui s'appelle la rue des Bernardines. Et j'ai une très jolie perspective de ruelle. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on suit les rencontres entre des Palestiniens, des Israéliens et des jeunes des quartiers sensibles, comme on dit, d'Aix-en-Provence, là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est-à-dire Leïla Chaïd, Michel Barchavski et Dominique Vidal, qui discutent de tous les problèmes, aussi bien les problèmes israélo-palestiniens que les liens qui peuvent exister ou qu'on imagine ou qu'on suppose entre ce conflit et puis les tensions qu'on peut déplorer parfois dans notre bel hexagone. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, dans la basse Suisse, on va retrouver le bourreau, un personnage que Guy Anquetil avait rencontré, le bourreau. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de retrouver ce bourreau? Hier, on parlait de progrès avec des élèves d'un lycée professionnel de la région. Et personne ne croyait, les élèves, oh, c'est un vieux mot, ça n'a pas de sens aujourd'hui, progrès, changer, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. Ben, on peut au moins dire que le fait qu'il n'y ait plus de bourreaux dans notre pays et que les bourreaux qui restent soient au chômage définitivement montre quand même un tout petit progrès qu'on a accompli, qui est l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Ça n'est pas rien quand même. Voilà, c'est une idée pour aujourd'hui, dans la base si j'y suis. Je vous rappelle le numéro du répondeur, mais vous le saviez déjà, 01 56 40 37 37.
Oui, donc l'origine du monde, peut-être, je dis bien peut-être, une invitation au désir pour un homme, mais aussi pour une femme. Moi, j'associe l'érotisme à l'intime. Il faut d'abord commencer par soi-même. Un jour, en cachette, j'ai regardé mon chaton avec un miroir. Oui, je vous ai fait ce geste. Mais si mon homme regarde mon minou, je suis comme une reine. Mais le fait de voir cette peinture dans un lieu public, je serai forcément différente. Il y a les gens autour, et puis les autres œuvres. Là, je regarde le titre. Je pense l'artiste a voulu nous dire quelque chose sur la création. L'homme peint et la femme enfante. Ce serait, en tous les cas, ce serait faux de penser qu'un enfant ne doit pas voir cette œuvre.
Moi, le tableau de Courbet, l'origine du monde, me donne furieusement envie de peindre la même chose, mais en masculin. Au revoir.
Je voulais réagir au sujet du tableau L'origine du monde de Courbet. Je m'en suis aperçue un jour au détour d'une galerie. J'ai été très surprise, mais je l'ai trouvé magnifique, sublime. Je suis une femme, j'ai 60 ans, et je trouve ça très très beau.
C'est Patricia. Alors depuis le temps que j'éprouve le besoin de te dire merci, c'est parti, c'est grâce à la journée de la femme que je viens d'écouter, qui m'a presque donné des frissons tellement c'était beau. Je ne pouvais que m'imaginer être au musée d'Orsay, en train de regarder cette toile de Courbet, à écouter les fabuleux témoignages, les bruits mélangés, les naissances. Vraiment, je m'y voyais et cette peinture a appelé l'origine du monde. Je n'en revenais pas. Il n'y a qu'à la basse où j'y suis qu'on peut vivre des moments intenses, car il n'y a que chez vous que circulent ces infos. Merci, au revoir.
Je viens d'entendre l'émission sur le Zoom de Courbet, émission que j'ai écoutée avec plaisir et qui m'a rappelé une anecdote que je n'évoque jamais sans sourire. J'ai emmené des élèves de terminale visiter le musée du Louvre et avec une poignée d'élèves, nous sommes tombés face à ce tableau et je les ai titillés un petit peu en leur demandant si c'était pas trop prétentieux d'appeler ce tableau l'origine du monde. Et un de mes élèves m'a répondu non, Dieu était barbu. Judicieux ou subversif?
J'ai contemplé l'autre jour avec des amis l'origine du monde à Orsay. C'est vraiment fantastique. C'est un, C'est un tableau plein d'émotions. Il est vrai que, comme l'a dit Daniel, un tableau c'est muet, mais moi je m'en fous. Je sais lire sur les lèvres. Bonsoir.
Ça faisait un moment que j'avais envie de réécouter cette émission, puisqu'elle est à l'origine, c'est le cas de le dire justement, là, d'une très belle chanson qui s'appelle « L'origine du monde », qui a été chantée par Françoise Breu, qui avait demandé, après avoir entendu cette émission, à Philippe Catherine de lui écrire une chanson. Voilà, alors quand un tableau donne naissance à une émission qui elle-même est à l'origine d'une chanson aussi belle que celle-là, et ben c'est magnifique. Et merci beaucoup et pour toute cette émulation. Salut.
Tout tourne autour de la même chose. Et si l'on connaissait la cause, ça ne changerait pas. Si tu pouvais encore te cacher sur quelques centimètres carrés, ce serait là. Mon petit garçon qui n'a pas trouvé de maison, sois sage. On ne fait pas de plus beau voyage.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, parole de bourreau, Fernand Messonnier, exécuteur des arrêts criminels.
Flight number 2, arriving from New York.
Et tous des panneaux, comme là, vous voyez, l'endroit là, c'était, vous voyez, voilà.
Et voilà, là, c'est le reste de votre collection, et voilà la guillotine.
Ah, la guillotine.
C'est votre guillotine à vous, oui. Votre petit souvenir. Vous allez me montrer comment on fait.
Alors, le condamné, il arrive comme ça, oui.
Voilà,
le joint de chaque côté. La demi-lunette, elle est soulevée.
C'est la demi-lunette, là, c'est là où on passe la tête.
Oui, elle est soulevée. Là, vous voyez, ça bascule. Elle est retirée. Donc, elle est comme ça, vous voyez.
Ça, c'est...
Après, c'est comme ça, vous voyez.
Ah, la planche sur laquelle on est allongé, en fait, d'abord, elle est verticale.
Ouais, vous avez les signes. Et moi, je suis là.
Vous êtes de l'autre côté là. De la lame.
Je tire, voilà.
On fait glisser voilà. Jusqu'au... Comment ça s'appelle ça? Jusqu'au carcan, là. La demi-lunette. Bon. Et alors, vous faites quoi à ce moment-là?
Eh bien, quand il bascule comme ça, je m'avance entre les deux montants, je tire la tête, et je là ici, là.
Ah, aïe. Ah, juste derrière les oreilles, là, les machins.
Oui, mais si je suis fait fort ici, ça vous fait mal, je vous en prie qu'on vous attaque.
Arrêtez, vous me faites mal, là. Voilà. En prenant fort, là, derrière les oreilles, en fait, quoi, oui, la jointure de la mâchoire.
Une fois qu'il dénonce ça, comme ça...
Là, vous faites le geste d'attraper
ça,
la tête ou...
L'autre côté, il y a la lame qui coupe, c'est tellement rapide qu'il n'a pas les secondes nécessaires pour se décaler.
Pour bouger, pour essayer de se débattre.
Tellement. Et j'ai dit, vas-y, à mon père. Et il déclenche, ça y est. La tête est brise dans la main.
C'est vous qui, en fait, lancez
le
signe de la lame qui tombe.
Parce que mon père ne voit pas. Il est de l'autre côté, il ne voit pas. Oh. Paf. Et j'ai vas-y, crac.
Et la lame tombe.
Oui, tombe. Oui.
Mais alors, du coup, quand la lame tombe, vous vous retrouvez avec la tête dans les mains.
Dans la main, voilà. Ah, bien sûr, ça fait drôle.
Ah oui.
Ah oui. Avoir une tête d'un compte de type en vie, et puis d'un coup, il n'a plus de vie, une tête sans vie.
L'appelle photographe, parce que regardez.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Ah, et on vous appelle le photographe parce que voilà, vous êtes de l'autre côté et c'est le
arriver dans l'objectif.
L'objectif, c'est de la lunette.
Et puis après, le corps qui tombe dans la corbeille.
Ah, la corbeille qui est juste à côté, voilà. Le corps qui a plus de tête, on le fait tomber sur le côté.
Et puis moi, la tête dans la main, je mets dans la corbeille.
C'est qui est de l'autre côté?
Le sang gicle à 3 mètres. Ah oui.
Il y a un jet comme ça qui part à 3
mètres. Ah oui. D'un coup, et après des petits jets comme ça. Le cœur continue à battre, vous voyez, voilà.
Et là, la tête, vous la lâchez tout de suite?
Non, non, je la dépose dans la corbeille.
Qu'est-ce qu'on en fait après?
Et puis après, c'est le contenant qui vient, il met dans le cercueil. Mmh. Oh, bien sûr, j'ai des détails, parce qu'il y a des trucs invraisemblables en Algérie. Des fois, quand il y avait plusieurs exécutions, bien sûr, mon père a trouvé le truc de faire des cercueils. Pour, dès qu'il y a un exécuté, on met le corps dedans, parce que sinon, c'est dur. Comment moi je peux vous reconnaître, moi, comme M. Bessette, si c'est pas par la tête?
Vous voulez dire qu'une fois que la tête et le corps sont séparés, pour pas pouvoir s'en mêler?
Il y en a cinq. Et ben, moi, je suis incapable. Je les ai vus pendant 20 minutes. Des fois, c'est les gardiens. Non, c'est la tête de Abderrahman. Non, c'est la tête d'Amidal. Et bon, je sais pas.
C'est vrai que c'est des questions qu'avant de l'avoir vécu, on a du mal à se poser cette question-là.
Entre le condamné arrive devant la bascule et la tête coupée, 3 secondes de vie. C'est très, très, très rapide.
Assassin fait un dur métier.
À l'heure du crime, il faut se lever.
Et pour tuer prestement.
Par la langue qui saigne à blanc.
Il étudie l'anatomie.
Il sait pas où s'en va la vie.
Et qu'on peut pas saigner la vieille.
En lui tranchant le gros orteil.
L'assassin doit se cultiver.
Des robes spécialisées.
Apprendre le geste du sommeur.
Du seigneur qui sème la peur.
Et te planter dans la poitrine.
Le coupeau ne prend pas racine.
Et qu'un couteau planté dans le dos.
Devient un joli porte-manteau. Y'a assassin et assassin.
À la démarche, je la mets bien. Tombe pas sur un sagouin.
Assassin et assassin.
Elle a des moches, elle a des liens.
Pour trouver
un bon
assassin.
Dans les pages rouges du botin, la chair humaine, c'est pas du
lard. Le dépeçage est tout un art.
L'assassin, véritable artiste.
Avec un côté de pianiste.
Ne découpe pas, monsieur Dupont.
Comment découpe le cochon.
Pour obtenir de beaux jambons.
Le contour du garçon. Y'a assassin et assassin.
Y'en a des moches, y'en a des liens.
Se faire assassiner, c'est rien.
Y'en a des moches, y'en a des liens.
Pour trouver un bon assassin.
Dans les pages rouges du botin.
Comment on pourrait vous présenter?
Ah, très, très humain. Je suis très sensible, malgré cette fonction que j'ai eue. Des fois, quand je vois des émissions, ça paraît drôle, hein, des émotions sur Perdu de vue ou des trucs comme ça.
Et à la télé?
Ouais, à la télé, j'ai là, moi, je suis content. Mon père aussi était très sensible. Ça n'a rien à voir. Une fois, un ami qui avait une Peugeot avec des grandes manivelles, là, la manivelle l'a échappé des mains, il s'est fait sur un coup sur le crâne, et le crâne, c'est d'un moment du crâne, vous voyez, le sang lui coulait au commissaire des lèvres. Eh bien, je me trouvais mal, je me suis senti mal.
Parce que le mec avait le
parce crâne que c'est qui... un copain, parce que il souffrait, alors que des condamnés à mort, j'ai tenu la tête, je vais me lever les mains, je vais me doucher après, parce que bien sûr, le côté malsain de toucher un type pourri. Pour moi, c'est un type pourri, un type qui a égorgé, qui a violé les enfants et tout. C'est là, quand on veut toucher un type comme ça, c'est des bêtes. C'est pas... Maintenant, un FLN, il y a eu des types courageux qui ont les armes à la main, tout ça, c'est plus la même chose. Pomme, et puis je sentais vraiment, putain, j'ai accalé, craque, putain, d'un coup, et après des petits gérons comme ça, pom, 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 et puis je sentais vraiment, putain, j'ai accalé, craque, putain, d'un coup, et après des petits gérons comme ça, pom, 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 et puis je sentais vraiment, putain, j'ai accalé, craque, putain.
À découper, suivant les pointillés, je me souviens du tatouage écrit en bleu autour du cou de Monsieur Alphonse, un copain de papa, quand on cueillait les cerises en maillot de corps au mois de juin, à découper suivant les pointillés. La bascule à Charlot, la machine à déblaire, la veuve, les bois de justice, la bécane, que de petits noms élus, la guillotine qui fut inventée avant, bien avant, le docteur Guillotin, souvenez-vous, la décollation, vieille coutume, jusqu'à l'abolition, jusqu'à la disparition de la guillotine qui fit des chômeurs parmi les bourreaux, ah non, exécuteurs, il faut dire exécuteur, exécuteur des hautes œuvres. Et voici que l'un d'eux, le dernier, François Meissonnier, parle. Le premier à s'exprimer dans un livre tout à fait étonnant, Paroles de bourreau, témoignage unique d'un exécuteur, recueilli par un anthropologue qui s'appelle Jean-Michel Bessette. Le témoignage de Fernand Meissonnier nous renvoie simplement à la frontière entre notre inhumanité et notre humanité, à ce qui sépare les deux, qui tranche entre les deux, l'humanité et l'inhumanité, comme, oui, comme la hache ou la lame, plus progressiste et plus hygiénique, sépare le corps de la tête. Voilà qui nous renvoie à ce droit de tuer, ce monopole de la violence qui est celui de l'État, qui nous renvoie à un passé qui semblera barbare alors que la barbarie n'a fait jamais que changer d'habit et non pas d'avis. Fernand Meissonnier, exécuteur des arrêts criminels, un témoignage qui dépasse le pittoresque et même l'humour noir, depuis longtemps lié à ceux qui découpèrent selon les pointillés.
Alors parlez-moi de votre père.
Mon père était communiste. Ah oui, il était communiste. Il était communiste, mais d'abord républicain. Il aimait son pays d'abord. Mais en 44-45, c'est là les communistes qui ont poussé des Arabes à la révolte. Et mon père, c'est de plus en plus, il s'est plus occupé de la politique. Plus rien, plus c'est fini. Ni de droite, ni de gauche, c'est fini. Et mon père a pris le bar-restaurant à la Perlée. Le café La Perlière, il est écœuré.
Il s'occupait de son truc.
Mais il a gardé comme son esprit communiste parce que c'est le seul qui partageait sa paye d'exécuteur en chef avec ma paye et celle des trois autres adjoints. On divisait par cinq. Mon père, c'était pas tellement le salaire, c'était cette fonction qu'il aimait, mais jamais à la maison. On parlait des exécutions, ni ma mère, ni mon père, ni tout.
Comment il est devenu exécuteur, votre père?
Comment
il est devenu?
Il est devenu exécuteur. Mon parrain, c'était exécuteur en chef. Mais ils sont une famille de, ça remonte à François Ier, hein. C'est une très vieille famille. Les Rocs, les Bergers. Bergers étaient alliés avec Sanson.
C'est qui Sanson?
Comment Sanson? C'est la famille qui a l'exécuteur Louis XVI.
Quand on vous... Une lignée d'exécuteurs.
Oui, quand on vous dit monsieur de Paris, monsieur d'Alger, c'est parce qu'à l'époque, comme exécuteur, comment ils allaient dire? Alors ils disaient monsieur de Paris, vous voyez?
Et monsieur d'Alger, c'était Roc?
C'était Roc, et après c'était Berger, et après c'était mon père.
Et monsieur d'Alger, ça voulait dire celui qui fait marcher la guillotine.
Voilà.
Oui, c'était comme une charge, quoi. C'était pas emploi, non, c'était...
C'est une charge, c'était auxiliaire d'État. C'est pour ça qu'on n'a jamais payé d'impôts sur la fonction d'exécuteur. Même on pouvait gagner 6 fois ou 10 fois le SMIC.
L'exécution nette d'impôts.
Alors,
comment vous dites d'ailleurs? Vous dites bourreau? Vous dites exécuteur?
Non, on dit exécuteur. Parce que bourreau, ça veut dire bourré de coups. Vous voyez, c'est pas du tout...
Ah, c'est péjoratif, quoi.
Voilà, on dit pas le bourreau, non. Mais les gens ne sont... Oui, alors, bien sûr, vous dites parole de bourreau, là... Ah bon, ça c'est on parle de guillotine, ça y est. Oui. Mais si on dit exécuteur.
Alors c'était le terme officiel, c'était quoi? Exécuteur?
Des arrêts criminels.
Des arrêts criminels.
Ou des sentences criminelles.
Là, vous avez tout dans un coin, il y a tous vos papiers qui sont stockés, plein d'archives qui sont.
Tout ça.
C'est quoi ça, par exemple, cette page-là qui est là? C'est quoi ces listes-là qu'on voit?
Là, c'est... Tous les condamnés, on a exécuté. C'est une page. Il y a plusieurs pages. Rien que des terroristes, il y a eu 141.
Alors, il y a écrit terroriste.
Au début, alors 56. Voilà.
Il y a des noms. Ferhat Abdelkader.
Sina, voilà.
4 morts et 20 blessés.
Ouais.
Exécuté le 3 juillet 1956. Ouais. Terroriste exécuté. On arrive à
141. Terroriste. Hein. C'était tous des terroristes. Hein.
Que vous avez exécuté.
On a exécuté. La première exécution, c'est vrai, j'avais 16 ans, j'étais très impressionné. D'abord, j'étais à deux doigts de dire, je vais pas y aller. C'est pas une mouche qu'on tue. Hein, quand même, hein.
C'est pas une mouche qu'on tue.
Bien sûr, c'est vous rendez compte, c'est un être humain. Malgré qu'il ait fait un crime horrible. Et il devait être 4 heures du matin. J'entends le premier chant du muezzin, c'est
l'appel à la prière.
Oui, la première qui appelle à la prière, le ciel se pâlissait un peu, vous voyez. C'était comme une chape de plomb. Hein. Il était là, je me rappelle, le cœur me battait. Berger et mon père, ils disent au procureur, il est l'heure. Ils ont été réveillés, le condamné. J'entends ça du peut-être 20 minutes. Et moi, tout le temps, attendre ça, c'était et d'un coup, les deux patins de la prison, s'ouvrent un fracas, et puis une clarté, parce que mon père voulait un sacré éclairage, il voulait pas, comme on entend des rocs, et puis de lampes et tout.
On s'allumait, comme sur une scène de théâtre ou de cirque.
De grosses lampes partout, c'était un éclairage. Je vois sortir donc le condamné, descendre les quatre marches. Et quand il a basculé, j'ai vu sa tête entre deux montants, mais j'étais à 2 mètres.
Ouais, on la longe comme ça sur le ventre.
Oui, pam, 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 ça, c'est un oui. Et que la tête, l'âme est tombée, ça, oui, s'ouvre, hein, pam, et puis un jet de sang sur le côté, j'ai poussé un cri, ah! Et je sentais, vraiment.
Vous tenez le coup, là.
Ah, oui, non, c'était impressionnant.
Ça, c'était votre première exécution.
Ah oui, ça, c'est impressionnant. Le gars, moi, j'avoue, hein, pas déconner, quand même. Après, le directeur appelle une bouteille de rhum, chacun boit une rhum, et je voyais au visage, il était tout blanc, blême. Hein, c'est violent qu'on vient de voir.
Et ça vous a pas choqué, justement, de dire c'est ça le boulot de papa?
Non.
Comment il peut faire ce boulot?
Non, parce que je voyais tous les procédures, des crimes qu'on fait, des types ont fait des crimes horribles. Une femme avec son mari ont envoyé leur propre gosse dans le port d'Alger. C'est un truc horrible. Donc, moi, pour moi, mon père, c'était un justicier. Alors, quand j'étais 14 ans, j'ai été avec mon père voir la guillotine. On montait la guillotine, ils l'ont peinte. Je me rappelle.
Quelle couleur?
Ah, c'était du vin. Ouais, Bordeaux. Et ça sentait cette odeur caractéristique du sang humain. Hein? C'est une odeur, c'est comme une brochure chevaline, c'est pas mon odeur que de charcuterie. Et bien le sang humain, c'est une odeur.
C'est-à-dire que la guillotine sentait le sang.
Ah oui. Même malgré le lavage au grand jet d'eau, là, ça donne une odeur. Je sentais cette odeur. Et après, quand il était nommé, je sentais...
C'est comment cette odeur?
C'est pas une odeur désagréable, c'est une odeur... Vous voyez, l'odeur du sang. Eh bien, c'est ça. Mais bien sûr, une petite une coupure hein, comme ça, mais bien sûr, quand il y a le sang humain, c'est d'un coup, il y a 5-6 litres. Hein, bon, alors quand on est arrivé à en faire 5, dans la journée, ça fait un paquet. Hein. Et... Même 40 ans après, maintenant, il y aurait une exécution, je sens de suite le sang humain. Ça a une odeur caractéristique. Alors après, bien sûr, c'est pas on s'habitue au sang, mais on finit par s'habituer. L'homme s'habitue à tout. Hein.
Les gens voulaient assister aux exécutions. On vous demandait ça comme une faveur.
Oui.
C'était un spectacle.
Écoutez, rien n'a changé. Hein. Quand on a tué, qu'on a écartelé Ravaillac, il fallait que le supplice dure 1h15 avant que le cœur lâche. C'est pire encore. Tout le monde voulait voir. Oui, c'est malsain. Hein.
Mais alors, l'exécution de la sentence de peine de mort, ça aussi c'était un spectacle. Et ça aussi, les gens venaient, ça se faisait.
Ah, oui, c'était public. Après 39, c'était dans la cour de prison. Il y a plus. À Oran, en 38, il y a eu l'affaire Zahoui et des deux Arabes. Il y a eu, je sais pas, des milliers de personnes.
Est-ce qu'on voulait voir Zahoui se faire tuer ou est-ce qu'on voulait voir le spectacle de la mort?
Eh bien, j'en sais rien, moi. Les gens venaient, c'est certains par un goût sadique, d'autres, je sais pas, moi, ils veulent voir du sang, hein. D'ailleurs, regardez quand il y a des films, des fois, d'horreur, coup de couteau et tout, tout le monde regarde ces films. Moi je tourne.
Ouais, mais c'est du cinéma.
J'aime pas.
Ah, vous regardez pas les films d'horreur, ça vous gêne?
Ah, non, je suis mal à l'aise, oui. Non. Pourquoi inventer encore? Il y a déjà assez d'horreur, pourquoi en inventer, hein? Pour voir ça, moi, je tenais la tête du condamné, bien sûr, on peut être émotionné, mais c'est surtout de la technicité. Moi, je voulais surtout le point de vue technique. C'est pas du courage que j'ai. C'est là qui dit c'est du courage. Non, c'est pas du courage. Il faut du sang-froid pour ne pas louper une exécution. C'est ça qu'il faut. Technique. Et puis, je pensais surtout aux victimes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça.
Et pas le mec qui est en face de soi, à qui on va décoller
surtout,
la tête.
Surtout quand vous tombez sur des gars qui se vantent. Ils se vantent, moi j'ai vu des gars se vanter. J'ai jamais vu un condamné, du moins moi, hein, qui dit « c'est pas moi, je suis innocent », tout ça, jamais.
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 L'aide de service, exécution capitale des personnels non militaires condamnés par les tribunaux permanents des forces armées en Algérie. En application des dispositions réglementaires, l'exécuteur en chef des arrêts criminels est chargé de l'exécution des personnels non militaires condamnés à mort par les tribunaux militaires permanents des forces armées. Le remboursement des frais entraînés par les exécutions lui sera assuré selon le tarif appliqué par le gouvernement général de l'Algérie et conformément aux ordres de l'intendance.
J'ai vu un militaire, un pilote, hein, qui a pendant la guerre, hein, il a bombé à Dresde, à Berlin, jeté des bombes, tout ça. Je n'ai pas le courage de lâcher des bombes sur des innocents. Là, moi, je sais qui je tue. C'est comme vous tuez un Allemand pendant la guerre, il tue un ennemi. Et là, je tue l'ennemi de la société. C'est pour ça que je préfère ma fonction que le procureur, qui demande la peine de mort sans... Il n'a pas le courage de déclencher la lame. Il est juré. Il demande facilement. Moi, ayant vu ce que j'ai vu, je demanderai le minimum d'exécution. Parce que il faut être sûr. Il faut être plus que sûr. Et il y a eu des erreurs. Moi, pas pour ma part, il y a eu des erreurs en 1800, 1820. Le malheureux de Turc, il était guillotiné pour rien. Eh bien, tous les ans, j'envoie des fleurs dans la tombe de Turc. Je sais pas que je prie, mais je me recueille, hein, en pensant qu'un exécuteur, il a participé à un crime. Il a fait un crime.
Ouais.
Voyez la tombe de Turc.
Là, c'est une photo que vous montrez de la tombe probable victime du erreur judiciaire. Fernand Messonnier l'a retrouvée au Père Lachaise et au nom des exécuteurs des arrêts criminels, l'a fait fleurir régulièrement. Comme si c'était une culpabilité que vous deviez porter pour vos collègues exécuteurs.
Oui, c'est une erreur judiciaire et que ça me passe en travers, vous voyez. C'est dur.
Vous vous sentez responsable de ceux qui ont été tués injustement?
Je suis un peu responsable, mais... Pour ma part, heureusement que j'ai pas fait d'innocents. Alors là,
attendez, Fernand. Vous dites, j'ai pas tué d'innocents. Moi, tous ceux que j'ai tués, c'était des salauds ou des criminels.
Oui.
Mais vous m'avez montré la liste de ceux que vous avez exécutés.
Oui.
Et dans cette liste-là, il y en a pas mal qu'on appelle terroristes. Les militants FLN, les militants et les militants de l'indépendance algérienne.
Oui, oui.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, les résistants qui étaient exécutés par les Allemands, on les appelait aussi terroristes.
C'est pas la même chose, non. Non. Moi, pour ma part, hein, c'est des criminels. Quand on tue, on égorge des enfants, c'est pas la même chose. Hein.
Ouais, mais tous les gars du FLN ont pas égorgé des enfants non plus.
Non,
il y en avait beaucoup.
Non, mais ils ont mis une bombe. Maintenant, un terroriste qui attaque des militaires, les armes à la main fédérale, il y a un train, quoi. Ce que j'aurais été peut-être algérien, ce que j'aurais fait. Je voyais bien en Algérie, quand il y avait des FLN pris des armes à la main, qui étaient vraiment des purs et durs, ils chantaient les Algériens, ils sont morts avec un très grand courage, aussi bien que des révolutionnaires de 93. Vous voyez, un courage exemplaire, il faut dire la vérité. voyez.
Et vous, vous les avez exécutés sous l'appellation terroriste.
Oui, oui.
Mais les terroristes...
Maintenant, j'aurais été exécuté. J'aurais été exécuté parce que, pour mon point de vue, nationaliste.
Voilà.
Voilà, peut-être, oui. Mais ça, c'est la vie. Mais ça, il faut demander, c'est le procureur, c'est les jurés qui demandent la peine de mort. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis un bras de la justice. On calcule le poids pour la longueur de la corde. Et il laisse le type pendant une demi-heure.
Les bourreaux, ni des martiens, les bourreaux, ni des animaux, les bourreaux sont des humains, les bourreaux font de vieux os, les bourreaux se font pas de mourons, les bourreaux se lavent les mains, les bourreaux rentrent à la maison, les bourreaux après le turbin, les bourreaux de la vindicte, les bourreaux de la sentence, les bourreaux ne sont que la suite, les bourreaux suivent les instances. Les bourreaux, des petits bourreaux, chefs de bureau, des grands gourous, les bourreaux, chefs de bourreau, les bourreaux savent trier, dit-on, livrer du bon grain, les bourreaux d'un coup de tampon te remplissent un train, les bourreaux, bourreaux d'enfants, les bourreaux, enfants de bourreaux, les bourreaux serrent les dents, les bourreaux abattent du boulot.
Mais en Algérie, mon père, lui, recevait du procureur, telle personne doit être exécutée. On le faisait dans la semaine ou 15 jours. Il fallait exécuter. Bon, mon père, ça l'arrangeait, il avait un bar. Donc, le dimanche soir, on partait, vous voyez.
Les mecs se faisaient exécuter en fonction de l'emploi du temps familial, quoi.
Voilà. On partait à Oran. Hop, il y avait trois exécutions à Oran. Le lendemain, hop, on arrive à Alger. Il y a encore deux encore à Constantinople. On retournait. Après le lendemain, encore trois, quatre à Oran. Alors, on arrivait. Alors, je me posais des questions. J'ai dit, comment qu'il pouvait, honnêtement, juger, en février, il y a bien eu, entre les graciés et les condamnés, plus de 100 cas, attendez-moi.
Sans exécution?
Non, il y a eu 20.
Ah, bon, sans peine de mort.
Il y a eu 80 ou 100 quand les graciés. Les crimes étaient le même.
C'était quoi?
Assassinat, incendiaire, vous voyez, attaque d'un convoi. Bon. Alors, le type qui était au grâce, il y a 10 condamnés, il fallait 30 grâces. Allez, tac, tac, allez, foutu. Et ben là, le type, si plus ou moins il joue au loto, ou il aime les chiffres, père, impair, alors il a le type qui a malchance de tomber impair, il parle à casserole. Allez, pompe, 1, 2, allez, gracié. Tac, tac. Allez, tu passes la casserole. Tac. Voilà. J'ai dit à mon père, c'est pas possible. Quelle différence entre celui-là et celui-là? Aucun. Et comment juger? Mais ça, c'est je posais à mon père. Mon père m'a dit que tu vas pas commencer à te compliquer, hein.
À se poser de questions.
À poser des questions. Et c'est, on va pas maintenant à discuter, à dire pourquoi celui-là et pas celui-là, hein.
Vous dites? Plus de 200 fois j'ai exécuté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remords sur une personne, non, sur un cas.
Là, si j'aurais un remords, si j'apprenais que tel condamné, on s'est trompé. Là, ce serait pour moi un cauchemar, d'avoir participé à un crime. C'est pour ça que je mets des fleurs sur le cirque.
Cette histoire, c'est cette tombe que vous fleurissez tous les ans, que vous avez essayé de rénover d'un gars qui s'est fait exécuter il y a maintenant bientôt 170 ans.
C'est autant de la guerre d'Italie et de Napoléon.
Ouais, vous n'étiez pas né, ni vous, non, ni votre père, ni
oui,
rien.
Oui, mais je sais.
Mais ça... vous vous sentez coupable, vous vous sentez responsable.
Voilà, de l'honneur de la justice, je fleuris la tombe de Le Sucre, parce que je suis contre ces injustices. Je peux pas supporter les injustices. Je peux pas. J'essaie de me mettre dans la peau de sa famille, dans la peau du type, crier son innocence et personne n'entend. C'est horrible.
Moi, je trouve ça prodigieux que vous posiez autant de questions sur la culpabilité, sur les conditions de jugement, alors que vous vous en posez pas pour exécuter ce jugement et pour détacher la tête des épaules du gars.
Ah oui, mais je pense que c'est coupable. Si j'avais été à exécuter un type qui est couleur d'affiche, je pourrais pas le faire.
Et combien vous étiez payé pour les exécutions?
Alors, voilà. Les salaires fixés en 58, hein, les exécuteurs en chef, 43 333. Premier adjoint, 27 500. Les 3 aides, 11 600. Alors, c'est un franc, bien sûr. Déplacement par jour. Les exécutants en chef, 1820.
Ça, c'était la prime de déplacement.
Le montage.
Pour monter la guillotine.
Oui. 500 francs et 500 francs pour le démontage. Et puis, les primes de tête.
C'est quoi, prime de tête?
Ben, par condamné.
Par tête coupée.
Voilà. 3000 francs, l'exécuteur en chef. Le 1er juin, 2500. Les 3 autres adjoints, 2000. Et il y avait une prime de risque de 12 000 francs par mois. En plus.
Donc, ça fait qu'au bout du compte, vous étiez bien payé.
Ah, mais pendant les événements, 20 dans le mois, vous direz, mettons, 4 fois ou 5 fois le SMIC. Eh bien, c'est bien payé parce que vous touchez par là. Vous travaillez une heure ou deux heures pour une exécution. Mais finalement, c'est plus que payé. C'est vaut mieux être exécuteur que laboureur.
Ah bon?
Eh oui. Pourquoi un laboureur, il va transpirer? Et moi, étant exécuteur, qu'est-ce que j'avais? Une exécution, deux exécutions. J'étais payé, port d'armes. J'avais un pouvoir que personne n'a. C'est uniquement ça. J'avais le temps libre. Je courais après des filles. Après, j'ai commencé. Parce que j'ai tout le temps aimé les filles. Hein. Voilà. Alors, ce qui est curieux, j'ai eu des très, très, très jolies filles. C'est pas d'enjouant, c'est d'avoir le temps. J'avais de l'argent. Et j'allais à droite, à gauche. Une fille, lundi, elle travaillait pas, ma pomme. Et je crois que je me demande, il y a peut-être un peu le piquant. Je me dis, c'était pas un homme comme les autres.
Est-ce que les filles, elles savaient votre boulot?
Oui, bien sûr, elles savaient. Tout le monde le savait.
Hein, et là, vous dites, ça les excitait un peu, ou ça?
Je me demande. Pas certain, mais je me dis des fois, oui. Je pense que c'est ça.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis bourreau. Ah ouais, tiens, piquant. Voilà ce que nous raconte Fernand Meissonnier. Parole de bourreau, le dernier et le premier, prétend l'éditeur, à se confier aussi longuement dans ce livre, publié chez Imago et recueilli par Jean-Michel Bessette, l'unique témoignage d'un exécuteur des arrêts criminels.
Le 56... À fin 58, on a fait 141.
141. Et là, c'est vous qui actionnez le...
Ah non. C'est mon père.
Ah.
Mon père. Et que moi, les deux derniers que j'ai fait, mon père avait l'opération d'un cancer de la gorge, et il était fatigué. J'ai dit, écoute, je vais te remplacer. Vite, j'ai pris la place devant la guillotine. Un tel pouvoir, c'est ça. Comment expliquer? J'étais comme un point de mire. Il y a tous les magistrats, les gardes mobiles, là. Ils m'ont regardé, j'étais à la guillotine. Ils amènent...
C'était vous l'officiant, quoi?
Oui. Moi, je me dis comment? Moi, qui aime bien la vie, qui aime rigoler avec les filles d'un côté et de l'autre, hein, je fais un truc de dureté incroyable. Ah ouais. Tuer mon semblable, là. Et sortir, après l'exécution, sortir de la prison, avec tous les plaignoirs qui m'approuvaient. On avait un pouvoir incroyable, ça.
Et qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de se retrouver avec la tête coupée du mec dans les mains ou c'est d'actionner la manette?
C'est pas la même chose. De la tête dans les mains, c'est quand même l'impression d'avoir un type vivant. Genre. Et l'autre, c'est un pouvoir de dire, là, à une seconde, je déclenche, j'enlève une vie à un type. En quelques secondes, c'est cette vision que vous avez en...
Mais vous, ça vous a fait gamberger d'actionner le geste de la manette?
Oui, mais là, je pense aux victimes. Si vous ne pensez pas aux victimes, et vous pensez que le type est peut-être pas coupable, vous ne pouvez pas la faire. Impossible, ça. Voyez-vous comment ça tue un innocent? Non, on ne peut pas. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des gens, je sais pas, moi, un pacifiste ou un libre-penseur qui vous a traité de salaud un jour?
Ah non. Ni salaud, ni montre du doigt. Si on nous a choisis, à mon avis, c'est parce qu'on... L'État pensait qu'on était donc juste et humain. Voilà. Ordre de réquisition, vous voyez, regardez.
Ordre de réquisition individuelle.
Voilà.
Monsieur Meissonnier, exécuteur en chef des arrêts criminels, demeurant à Alger, est requis jusqu'à nouvel ordre pour assurer ses fonctions. Juin 57.
Et ça, attention, en 57, tour de curieuse. C'est Mitterrand.
Votre patron, c'était Mitterrand.
Et c'était Mitterrand. Et c'est là qu'il y a eu le plus d'exécutions. C'était autant de Mitterrand. Hein. Là, regardez, avec mon camping-car. J'ai pas pu éviter la sorgue. Un petit griffon, un petit chien. J'ai écrasé. Oh putain. J'ai accalé, rasqué, putain.
Est-ce que vous avez écrasé un chien?
J'étais chargé, le chien était tué. Il est mort, écrasé. Bon. Et chaque coup que je passe la sorgue, là, paf, je pense à ce griffon et j'ai pas pu éviter.
Et comment on l'appelle la guillotine entre les techniciens?
La bécane. Berger, il disait la bécane. Mon père, il disait la machine. Il essaie de graisser la machine. La machine, je savais bien que c'était pas une voiture. Hein.
Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, vous avez 72 ans, c'est ça? Vous avez changé de métier, vous avez changé de vie, mais vous l'avez toujours là, la machine.
Mais oui, mais c'était pour un témoignage d'histoire. C'est pour en témoigner l'histoire, c'est pas.
Parce qu'en fait,
je vous dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas le condamné, ce qu'a dit le condamné, parce que les gens, comme vous les premiers, vous, qu'est-ce qu'il a dit, le sang, il a. Non, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'histoire de la justice, comment l'être humain en est arrivé. Alors...
J'ai l'impression que c'est ça que vous gambergez beaucoup, vous êtes documenté, vous avez recherché beaucoup pour essayer de réfléchir à tout ça.
Ah oui, moi j'ai pas une collection des bouquins. En vieux français, c'est très dur. À lire, c'est très dur. Mettons, 1540.
Là, dans votre salon, il y a des chaînes, des entraves.
Non, mais ça, je vais vous dire.
Des hallebardes, des épées. Là, dans ce coin-là, qu'est-ce que je vois? Là, il y a votre, c'est votre buste en bronze?
Non, ben, c'est...
C'est votre tête à vous?
Non, c'est ma tête.
C'est votre tête qui est sur la table.
Et mes mains, là, c'est mes mains.
Ah oui, c'est vos mains.
Et j'ai dit à ma fille, j'aime pas être enterré ou quoi, je sois ou incinéré. Voilà, comme j'ai mes parents incinérés. Je pense que je serai, à vie, là.
On va mettre votre cendre dans...
Là-dedans, voilà. Ouais, c'est creux. On peut mettre 3 kilos de sang là-dedans. Voilà.
C'est quand même pas mal un exécuteur qui a découpé des têtes, qui, à la fin de sa vie, va reposer dans sa tête.
Bien sûr, oui.
Et vous me dites, vous n'avez pas peur de la mort?
Non. Alors là, je pense la mort comme si c'était. Je me couche ce soir. On est mort. Hein, c'est nous. On s'accroche à la vie parce qu'on veut vivre. Non, tu as passé ton temps au suivant. Moi-même, j'ai un cancer au foie, j'en ai la foudre, moi. J'ai bien vécu. J'ai vécu comme un type normal au moins 150 ans. J'ai bien vécu, j'étais dans tous les pays, je me suis amusé, bien amusé, il y a des jolies filles et tout. Hein?
Et alors justement, si on revenait à la peine de mort en France, si on réinstituait la peine de mort en disant bah, finalement c'est ça la solution, il faut qu'on rétablisse la peine de mort.
Oui.
Et si on vient vous demander comment ça marche?
Vous avez fini. Non, j'ai fait mon temps, c'est tout.
Et vous avez jamais des images justement de la scène de l'exécution qui vous reviennent?
Non.
Le sang qui gicle?
Non. J'ai même jamais eu de cauchemar ni rêve. J'aimerais bien avoir un rêve. Des fois, dans un rêve, on a des détails de l'exécution, vous voyez? Eh bien, jamais arrivé, non.
C'était Parole de Bourreau, un reportage de Guy Vanctil. À noter ce soir, à l'école normale supérieure, un bon plan rue d'Ulm à 20h30, projection de Iran en attendant demain, un documentaire de Biran Anctil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, à la technique ce soir, Olivier Riotor et Ludovic Asselot, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, 01 56 40 37 37. Thank you.